Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker, épisode de Noël puisque nous sommes le jour de Noël, j'ai le plaisir de recevoir un militaire et pour la première fois je crois depuis la création du podcast un militaire étranger, Ryan Nourdali, sous-officier dans la Royal Artillerie britannique et passé notamment par le passé par la Légion étrangère française que les habitués du Twitter militaire connaissent probablement bien. Donc bonjour Ryan et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alex. Ravi d'être avec vous ce soir.
Et on vous reçoit donc pour parler d'un très grand film de guerre, à mon sens, qui est le Jarhead de Sam Mendes, qui est réalisateur aussi notamment de Skyfall et plus récemment d'un autre film de guerre qui est 1917. Alors, j'ai dit que c'était un épisode de Noël. En réalité, c'est un peu un prétexte pour parler de ce très beau film qui dit des choses, je crois, vraiment assez profonde sur le métier militaire, mais c'est quand même de là que je suis parti parce que je cherchais un film un peu dans le thème et je me suis rappelé qu'il y avait une scène de Noël slash Nouvel An qui est une des scènes un peu centrales et pivotales du film et que donc ça me suffisait largement avec un peu de mauvaise foi pour justifier de l'inscrire au programme. Je signale d'ailleurs au passage que du coup j'avais posé la question sur Twitter et je me suis retrouvé avec plein de très bonnes idées de films à discuter, dont un autre dans le bunker qu'on a déjà enregistré, que vous retrouverez la semaine prochaine, que je diffuserai probablement mardi. Donc il n'y aura pas vraiment de coupure de fin d'année pour le Collimateur, à part vendredi prochain, 1er janvier, qui est donc le seul jour où il n'y aura pas d'épisode. Donc, ce Jarhead de Sam Mendes est un film de Noël sans l'être du tout, à vrai dire, d'autant que toute l'action se passe dans le désert à l'occasion de la première guerre du Golfe et que tous les personnages étouffent de chaud en permanence, donc c'est une ambiance de Noël un peu particulière, et où on suit donc le personnage incarné par Jake Gyllenhaal, un jeune Marines qui s'est engagé dans les Marines à la sortie du lycée, qui se retrouve déployé dans cette invasion de l'Irak qui se fait attendre pendant de longues semaines et de longs mois, avec d'autres très grands acteurs, notamment comme Jamie Foxx, qui joue son sergent-chef en particulier. Alors on va en parler, on va détailler évidemment tout ça, mais peut-être dites-nous Ryan, ce qui vous intéresse, vous, dans ce Jarhead, donc sorti, je le rappelle au passage, parce que c'est pas tout à fait neutre, en 2005, c'est-à-dire au moment de la deuxième invasion de l'Irak, y a des effets de symétrie, il y a des effets d'écho qui sont très volontaires d'ailleurs dans ce film.
Alors, ce film m'intéresse sur pas mal de plans. D'abord parce qu'il est tiré d'un livre qui est un livre autobiographique écrit par un militaire du rang, ce qui est assez rare. Et autant, il y a eu pas mal d'écrivains qui ont été conscrits durant les deux guerres mondiales, autant depuis la tendance à la professionnalisation des armées, il y a de moins en moins, effectivement, de récits de guerre provenant des militaires du rang.
Vous voulez dire que c'est les officiers qui monopolisent la plume en général ?
Alors, monopoliser, on ne va pas dire ça. On a typiquement un exemple qui est l'exemple des membres des forces spéciales et qui a généré d'ailleurs toute une paralittérature masculine, notamment en Angleterre, je pense à Bravo to Zero par les SAS, ou d'ailleurs toute l'équipe de SAS de cette mission, qui par ailleurs a été un échec, se sont mis tous à écrire la même histoire, et chacun une version différente du reste. Je pense à Chris Kyle, par exemple, et il me semble que vous aviez fait un dans le bunker sur la question. Donc souvent, en fait, ce sont soit des membres des forces spéciales, soit effectivement souvent des officiers, qui présentent une perspective très intéressante sur le commandement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plus rare dans le cinéma.
Mais alors, on va dire, c'est un peu l'exception. Alors, les Bravo to Zero, c'est effectivement des livres qui racontent des choses, mais vraiment des forces spéciales. Donc, des SAS, de la même manière que Chris Kyle, c'était sur un sniper. Donc, c'est l'histoire qui est à l'origine du American Sniper de Clint Eastwood. Encore une fois, des histoires d'exception. Mais donc, là, la particularité de Jarhead, c'est que non seulement c'est un soldat du rang, mais qu'en plus, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait rien d'exceptionnel non plus, et que c'est du coup dans cette non-exceptionnalité que se trouve l'intérêt de l'ouvrage et puis du film au-delà.
Bah, c'est typiquement un récit qui ne permet pas de faire un film d'action. Et c'est pour ça qu'il est brutalement honnête, ce film. C'est qu'il va raconter une guerre et qu'il va raconter l'ennui, mais il va aussi raconter la vie militaire. Il y a énormément de choses sur la sous-culture, par exemple, des Marines dans Jarhead. Et donc, il offre vraiment une vision. Qui est à rapprocher un peu de ce que Kubrick avait fait, et Kubrick qui pourtant n'avait pas été militaire, mais avait adapté un livre d'un journaliste dans Full Metal Jacket. Et toute la partie sur l'entraînement n'est pas, enfin, est assez peu présente en fait dans le livre. Elle est moins importante que toute la partie sur le Vietnam. Mais Jarhead, pour moi, se place vraiment dans la lignée de Full Metal Jacket en cela qu'il décrit la formation du soldat, et quand j'ai dit la formation, c'est vraiment sa genèse, la transformation même du civil en soldat, et qu'il ensuite l'emmène dans une guerre, et qu'il va décrire effectivement ce qu'est une guerre avec de longues périodes d'ennui, et ce qui va peut-être même être une non-guerre, puisqu'en fait, Jared prend la guerre. Or, dans les films de guerre, on a tendance à confondre le combat et la guerre.
Ouais, tout à fait. Alors, on peut dire, alors cette sous-culture des Marines, c'est, enfin bon, il faut le voir, c'est un très 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 grand film, mais c'est vraiment, c'est-à-dire, on a l'impression de voir une bande de Marines décérébrée pendant 2 heures. On s'aperçoit petit à petit qu'en fait ils le sont pas vraiment et qu'il y a quelque chose derrière cette culture, il y a quelque chose d'assez profond. Enfin, il y en a aussi qui sont un peu décérébrés, mais ils le sont pas tous et qu'il y a vraiment une grande profondeur derrière ces rites, ces traditions, cette culture qui est extrêmement propre aux Marines, mais il y a des cultures propres à toutes les armes et à toutes les unités. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous, comment dire, cette représentation de cette non-guerre, qu'est-ce qui vous a parlé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a, vous qui êtes militaire, alors vous êtes passé par la Légion étrangère, vous êtes militaire britannique aujourd'hui, donc évidemment pas dans les Marines vous-même, mais quelles sont les espèces d'échos, les espèces de choses dont vous êtes dit ça tape juste?
Je pense qu'on va retrouver des choses qui sont très présentes et qui sont partagées dans les armées des démocraties libérales occidentales. Et pour parler de, il y a énormément de thèmes, de choses dans lesquelles je me retrouve. Comment dire? Déjà, en fait, ce qui est le plus frappant, je trouve, c'est de montrer. Déjà que la guerre n'est pas que combat, c'est aussi beaucoup d'ennui, mais de montrer par exemple l'influence de la culture populaire. Il y a une mise en abîme à un moment dans Jarhead, c'est quand les soldats regardent Apocalypse Now, et ils sont tous là en train de hurler de joie, surexcités lorsqu'ils voient l'attaque du village par la First Aircav, donc du colonel Kilgore.
Donc, rappelons, c'est la scène absolument mythique de la chevauchée des Valkyries, où
Voilà.
tous les Marines, donc qui le voient ensemble, font un contresens absolument complet en pensant que c'est génial de enfin, c'est évidemment pas du tout, c'était pas du tout l'idée de Coppola de dire que c'est génial de massacrer un village au napalm, mais pour autant, ils reprennent un contresens qui est assez courant, c'est-à-dire, c'est pas les premiers à être très excités, à trouver cette scène qui est faite pour être horrible, en fait très très plaisante.
Voilà. Alors déjà, il y a cette dialectique en fait entre la guerre qui inspire la culture populaire, mais plus tard en fait la représentation des guerres va peser en fait sur la psyché du combattant actuel. Et c'est très drôle. Il y a une scène dans Jarhead où à un moment des hélicoptères passent en diffusant des tubes de la fin des années 60. Et le personnage principal, Swoff, donc il est joué par Jake Gyllenhaal, comme vous l'avez dit, se plaint en disant: mais pourquoi on n'a pas notre musique? Ça, c'est de la musique du Vietnam. Et c'est un peu une métaphore du film, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des combattants qui sont très frustrés parce qu'en fait, au lieu d'avoir la guerre dont ils rêvaient, ils vont avoir quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est l'autre thème du film, c'est le sens du métier du soldat. Et là, on entre un peu dans la dimension un peu camusienne même du film, qui est soulignée par le fait que Swoff, d'ailleurs, est en train de lire L'Étranger. dans le film, le soldat, c'est quand même quelqu'un qui passe sa vie à s'entraîner pour exceller dans le pire des cas. Donc pour exceller dans une situation que personne ne souhaite. Et le soldat en vient souvent en fait à désirer le combat pour donner du sens à tout ce qu'il a fait auparavant, parce que la pierre de touche de sa valeur, c'est le combat. Et il y a une scène d'ailleurs dans Jarhead qui le montre, qui n'est pas très réaliste, d'ailleurs qui n'est pas dans le livre, c'est qu'effectivement lors du premier contact, au moment où ils se font tirer, en fait non, ils subissent des tirs de l'artillerie irakienne. Il s'arrête et il savoure le moment.
Ouais, tout à fait. Alors on peut dire, c'est par ailleurs un film qui a plein de références, qui a plein de références croisées. Alors, on a déjà cité celle à Apocalypse Now. On peut dire, il y a aussi une référence très directe à Full Metal Jacket, puisqu'il y a des scènes d'entraînement avec un sergent instructeur qui est une réplique complète du sergent instructeur de Full Metal Jacket. Enfin, d'ailleurs, peut-être que c'est simplement que tous les sergents instructeurs des Marines sont pareils, mais espérons que non. Mais il y a aussi des références à, bah, on dirait un peu le désert des Tartares, c'est-à-dire le fait qu'on attend toujours l'ennemi qui vient pas. Enfin bon, il y a cette espèce d'univers et de c'est nourri de références diverses. Et du coup, on en vient toujours à attendre ce choc, cette action qui est toujours repoussée. Et au final, on finit par comprendre, mais ça met longtemps avant enfin, même en le revoyant, j'attendais le moment du combat avant de me rappeler qu'en fait, il n'arrive qu'à la toute fin et encore pas vraiment, quoi.
Bah, ça a été une guerre high-tech. Des combats, il y en a eu, mais effectivement, on est dans une guerre où, par exemple, les grands chefs, donc Schwarzkopf et Colin Powell, en l'occurrence, avaient été des jeunes lieutenants au Vietnam. Et on en est au début de l'illusion de la guerre zéro mort. Donc, ils vont essayer à tout prix de préserver le sang américain et des coalisés en général. Et donc d'utiliser de nouvelles armes. Et cette guerre va être la première guerre véritablement presse-bouton. Et elle ne va pas déboucher comme la guerre contre la terreur sur une longue guerre avec une implication des troupes au sol, parce que on tape sur les Irakiens et on s'en va. Et on les laisse accessoirement massacrer les chiites. C'est ça. Et il va y avoir une frustration des troupes au sol. Et les pilotes d'hélicoptères et les pilotes d'avions, par exemple, s'en sont donnés à cœur joie, lors de la première guerre du Golfe. Les hommes au sol, beaucoup moins. Et voilà, ce conflit est triplement frustrant, et en particulier pour les Marines, qui sont une unité d'élite, et qui sont une unité véritablement qui tire une énorme fierté à être une unité de combat rapprochée, parce qu'on a des hommes qui sont effectivement tendus comme des arcs, et leur formation, en fait, participe à cela. Leur formation et leur culture, participent à cela. Et donc la guerre ne répond pas à leurs attentes, ce n'est pas le Vietnam, elle n'a pas de sens, et encore une fois au sens qu'elle vient du terme, c'est-à-dire qu'elle est absurde. Donc entre le bullshit dont je vous donnerai une définition si vous voulez, et des accidents comme les friendly fires, donc les tirs amis. Et puis, en dernier lieu, elle ne fournit pas non plus d'exutoire en fait à toute cette testostérone accumulée et qui est mise sous pression.
Ouais, mais alors justement, on peut en parler et dire que du coup, c'est toute la problématique. Mais alors, on a déjà parlé quelques fois dans le viseur, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir une troupe qui s'attend à se battre et qui ne se bat pas, qui voit pas l'ennemi? Et c'est la scène dont je parlais, dont j'avais pris prétexte pour programmer ce dans le bunker. Mais c'est la scène de Noël Nouvel An où on voit les hommes qui attendent depuis des mois dans le désert, il fait chaud, ils ont rien à faire, ils ont rien d'autre à faire que des exercices. Où il faut enfiler le plus vite les combinaisons anti-armes bactériologiques. You ain't got to get ready, you can't be motherfucker, you're so lazy. I told you to stay on course. 45 seconds, what you doing? What you doing? You better get your motherfucking ass in gear. You gonna be the first motherfucker I pick up in the ass. Et du coup, ben, assez logiquement, le soir du réveillon, ils finissent par faire n'importe quoi, par trouver de l'alcool, par trop boire, et ça finit en catastrophe. Mais pourquoi? Bah parce que des hommes qui sont tout entiers tendus vers l'action, quand l'action n'arrive pas, bah, cette énergie-là, il faut qu'elle se déploie sur autre chose, quoi.
Oui, mais je pense que vraiment la dimension la plus importante, c'est la dimension du sens. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai parlé du bullshit, pardon my French, comme on dit chez moi. Le bullshit, en fait, ce n'est pas que du mensonge, en fait. Dans la culture militaire, c'est toute tâche imposée aux soldats dont il ne perçoit ni l'utilité ni le sens. Et ça, il en a énormément. Les entraînements NRBC, effectivement, qu'on les voit. La partie de football américain en tenue NRBC juste pour faire plaisir aux journalistes, par exemple. Et ça, c'est un problème alors que moi, je retrouve typiquement en tant que sous-officier. C'est, je dois occuper mes soldats et les garder effectivement concentrés sur une tâche, mais j'essaie de le faire en ayant un minimum d'imagination. Donc typiquement, peindre des cailloux en blanc et les disposer par exemple par terre pour faire un joli blason, voilà, c'est, pour moi ça par exemple c'est du bullshit. Quand tu as donné des tâches, il faut donner effectivement des tâches qui ont du sens, et d'autant plus avec la nouvelle génération de soldats. C'est une autre génération d'hommes et de femmes qui posent des questions, qui demandent.
Vous voulez dire qu'ils ne sont pas habitués à s'ennuyer?
Ce n'est pas tant ça. Je pense qu'ils sont peut-être aussi plus éduqués, plus divers en fait dans leur formation, et qu'ils cherchent beaucoup plus du sens, et qu'ils sont beaucoup plus conscients en fait de leur potentiel.
Ouais, alors on peut dire que donc c'est de l'attente, c'est de l'attente, et effectivement beaucoup de bullshit tasse, mais c'est ce qui renvoie à un truc qui est la tension quasiment consubstantielle entre l'appareil militaire et l'idée que tout ça se décide à, que c'est quelque chose qu'il dit souvent, c'est que c'est de la faute des politiciens, c'est-à-dire que c'est eux qui devraient faire les choses, qu'il suffirait d'entrer en Irak et de renverser Saddam Hussein, et que c'est de la faute des politiciens qui font rien, qui magouillent, etc. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Mais donc c'est ouais.
Le contexte politique est remarquablement géopolitique est remarquablement absent de Jared. On a vraiment un effet de loupe. Et quelque chose de très très subjectif, et finalement la guerre est véritablement vue comme une espèce de décor. On ne s'intéresse pas vraiment dans Jared à ce qui se passe sur place. On ne mentionne jamais le sort des Koweïtiens occupés ou quoi que ce soit d'autre. On ne voit pas non plus les alliés de la coalition. C'est vraiment c'est le cas aussi. Un militaire en opération est terriblement isolé. Il est isolé des autres unités. Il n'y a que les commandants qui savent ce qui se passe peut-être à droite et à gauche, c'est-à-dire chez leurs homologues, et qui reçoivent des ordres d'en haut. Mais c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble. Et plus on est bas dans la hiérarchie, et plus c'est le cas. Moins on en sait.
Ouais, tout à fait. Alors, on peut dire maintenant, pour parler peut-être un peu du film en lui-même, que c'est un film qui est, en le revoyant, je me suis dit qu'il était absolument splendide, mais à un point visuellement, c'est vraiment toujours un grand choc de le voir et de le revoir. Il y a une photo qui est incroyable. Le désert s'y prête, c'est-à-dire le fait de représenter une action dans le désert, ça peut faire de belles images. Mais vraiment, il y a des images qu'on n'oublie pas de sitôt. Il y a une bande-son qui est aussi tout à fait incroyable, frappante. Vraiment, c'est un grand choc esthétique. C'est-à-dire, cet ennui, mine de rien, est quand même, par certains égards, transfiguré par la caméra qui en fait vraiment un très 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 bel objet.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Alexandre. Le film est beaucoup plus intéressant que le livre. J'ai lu le livre, il y a énormément de choses qui ne sont pas dans le film et qui n'y apporteraient rien. Mais pour moi, Sam Mendes, là, arrive véritablement à dépasser, à approfondir en fait, le livre d'Anthony Swofford et même à le sublimer en fait, avec les images et avec la façon dont il va narrer cette histoire en images et en musique. Et la scène qui m'a véritablement époustouflé, avec sur un morceau de Nirvana en plus, Something in the Way, c'est la scène où effectivement Swofford tente de se masturber, et en même temps il a un cauchemar où il vomit du sable dans un évier. C'est une scène absolument extraordinaire qui résume en fait toute cette absurdité, mais qui en même temps transmet cette espèce d'atmosphère poisseuse, l'étouffement, la promiscuité, tout y est, la misère sexuelle. C'est une scène assez hallucinante et absolument magnifique.
Oui, on peut dire simplement que ça, c'est un film qui insiste beaucoup sur quelque chose qui est souvent passé un peu sous silence, parce que c'est pas, bon, c'est l'omniprésence sexuelle, de l'idée sexuelle, les femmes les uns des autres, les copines les uns des autres, la masturbation en permanence, sur quoi se masturber, etc., etc. Bon, à la fin, ça devient un peu étouffant, effectivement. Mais on peut dire que c'est quelque chose. C'est évidemment pas ce film qui l'a inventé. C'est quelque chose d'assez commun, même à la vie militaire. Mais ce film l'attaque, disons, de front, ce qui est quand même assez rare.
Absolument, absolument. Et effectivement, il y a à un moment une épouse de militaire qui envoie une vidéo d'ailleurs à son mari. Et c'est encore une fois, encore une référence au Vietnam. C'est soi-disant sur la vidéo, le titre, c'est Voyage au bout de l'enfer. Et en fait, elle est en train de se filmer, en train de le tromper.
Mais on peut dire que c'est une obsession, c'est un leitmotiv, c'est pour tous les hommes. C'est quand est-ce que leurs femmes vont les tromper? Quand est-ce que ça va venir? Ça va venir, c'est sûr. Ils ont un mur des cocus, on pourrait appeler ça un mur des cocus, quoi, où ils collent les images de toutes leurs femmes qui les ont trompées. Enfin, c'est vraiment ça en parle, alors que c'est quelque chose qui est assez rarement abordé, quoi.
D'où l'intérêt d'avoir une voix très honnête de militaire durant qui va parler justement des obsessions, de ce qui ne va pas. Je pense que si on faisait la même chose, par exemple, en France, on pourrait parfaitement faire une sous-intrigue ou en tout cas un morceau où un pauvre militaire doit gérer sa femme qui ne perçoit pas sa solde à cause du problème du logiciel Louvois, par exemple.
Oui, probablement. Simplement pour terminer, on peut dire qu'effectivement, c'est un film qui se déploie, disons, dans l'absence de sens, c'est très vrai, mais qui en même temps donne du sens d'une manière très, très puissante, je trouve, parce qu'il y a une scène qui m'est restée longtemps en tête, qui a d'ailleurs assez largement donné naissance au format dans le viseur, pour être honnête, qui est une scène qui est visuellement incroyable dans les champs de pétrole en feu, avec ce pétrole qui tombe sur la tête des différents soldats. Et où il y a donc le sous-officier qui est incarné par Jamie Foxx qui parle avec soit le personnage de Jake Gyllenhaal et qui lui dit une tirade, mais je ne crois pas être le seul que cette tirade a marqué. Je n'ai pas les termes exacts, mais c'est quelque chose dans le goût. Je pourrais évidemment avoir une vie bien plus simple et bien plus confortable aux États-Unis, mais où est-ce que je verrais des trucs comme ça, des trucs aussi fous que ça, que des champs de pétrole en feu.
Because I love this job. I thank God for every fucking day that he gives me in the Corps. Ooh, wow. I mean, who else gets a chance to see shit like this?
Ce qui est, je crois, une manière de donner malgré tout du sens à l'engagement qui n'est pas si fréquente. Ce n'est pas un film qui se complaît dans l'absurdité, c'est un film qui donne quand même quelques éléments de réponse.
C'est un film où justement, et c'est pour ça que je dis qu'il est camusien, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont, c'est le monde qui est absurde, ce ne sont pas les gens. Et c'est aux gens de trouver justement ce sens. Et Sykes, il a trouvé le sens de sa vie. Et d'ailleurs, il termine sa tirade en disant « I love this job and I thank God for every day he gives me in the Corps. Hurrah !» Et c'est quelque chose, moi, c'est quelque chose que je comprends. Je me suis engagé par goût de l'action, surtout. Mais moi, la phrase qui m'a le plus frappé, c'est la phrase de la fin. et c'est celle à laquelle je suis beaucoup plus intimement lié, c'est celle qui a véritablement un écho chez moi, parce que ce film, je l'ai vu après avoir quitté la Légion, à un moment où effectivement j'étais retourné à la vie civile. Et cette phrase, c'est la phrase de la fin. C'est a story. A man fires a rifle for many years, and he goes to war, and afterward, he turns the rifle in at the armory, and he believes he's finished with the rifle. But no matter what else he might do with his hands, love a woman, build a house, change his son's diaper, his hands remember the rifle. Et c'est ce côté où l'expérience
Alors, je vais
militaire ne nous
traduire
quitte
très,
pas.
très, très sommairement. C'est l'idée simplement que même quand on dépose le fusil, les mains se souviendront toujours de l'objet fusil, quoi qu'on fasse, et que le
Exactement.
fusil, même absent, accompagne toujours les mains où qu'elles aillent après, quoi.
Et c'est quelque chose qui a résonné en moi et qui et du coup, effectivement, quelques années plus tard, je me suis engagé dans l'armée britannique.
Merci beaucoup, Ryan Nordali. Donc, je rappelle ce Jarhead de Sam Mendes, donc qui date de 2005 avec Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx. Aussi, un très jeune John Krasinski qui a un tout petit rôle qui est très intéressant, où il est obligé de rédiger les lettres érotiques du colonel. C'est une apparition très marquante, alors qu'il a fait des humanités classiques. Bref, un très grand film qu'on recommande évidemment sans modération. Personnellement, j'ai beaucoup plus goûté que le 1917 qui est venu ensuite, mais qui donne. Qui est probablement un des plus beaux films sur la guerre du Golfe, c'est sûr, et qui a des échos évidents dans une série dont on a déjà parlé ici, mais qui est aussi une série très importante sur le même milieu et sur ce que ça peut être que l'action d'une armée occidentale en Irak, qui est évidemment Generation Kill. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
A story. A man fires a rifle for many years, and he goes to war. And afterwards he comes home, and he sees that whatever else he might do with his life, build a house, love a woman, change his son's diaper, he will always remain a jarhead. And all the jarheads, killing and dying, they will always be me. We are still in the desert.